Activité physique, nutrition, entraînement, santé mentale, expérience de vie. Voici le balado En action. Une production du groupe Défi. Dans 3, 2, 1, action!
Bonjour tout le monde! Bienvenue à cette émission de En action, notre podcast sur l'activité physique et la santé. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance. On est avec Hubert Cormier, qui est docteur en nutrition, auteur. Il pourra nous mentionner combien il a écrit de livres jusqu'à maintenant. Puis j'ai aussi remarqué qu'il était un amateur de produits zéro déchet. Alors, on est ici pour parler de nutrition pendant le temps des fêtes, puis aussi d'autres sujets. Bienvenue, Hubert.
Hey, merci de me recevoir, Daniel.
Comment tu vas?
Ça va super bien. Écoute, beaucoup de travail ces temps-ci. Moi, la pandémie ne m'a pas vraiment affecté. Hein, fait que j'étais en processus d'écriture. Tu parlais d'entrée de jeu que j'étais auteur. Ben, j'ai profité, en fait. J'ai canalisé mes efforts pour écrire d'autres livres. Donc, justement, qui verront le jour en 2021. Très excité par ça.
Très cool. Là, première question, là. Tu es docteur en nutrition, donc ça veut dire que tu as fait de la recherche.
Exact.
C'était quoi le sujet de ta recherche? Puis, qu'est-ce que tu as trouvé finalement? Parce que quand on cherche, on veut trouver.
Ben oui, exactement. Écoute, c'est toute qu'une histoire. C'est ça. C'est moi, à la base, je suis vraiment nutritionniste 100%. Donc, j'ai fait un bac en nutrition à l'Université Laval à Québec. Et suite à ça, en fait, je savais que je me voyais pas vraiment dans le milieu hospitalier là, suite à mes stages. Et ce qu'on sait plus ou moins, en fait, de la profession de nutritionniste, c'est quasiment que 90% des diplômés finissent par travailler dans un hôpital ou dans un CLSC ou tu sais vraiment dans le milieu de la santé là, tu sais, en consultation, puis vraiment en gestion plus de maladies là, tu sais, on parle pas de gestion de poids, mais vraiment plus tu sais de prise en charge par exemple de diabète, tu sais, de cholestérol, tu sais, intervenir ici et là en fait pour régler différentes problématiques de santé qui ont un lien avec l'alimentation. Puis moi, j'avais pas vraiment aimé le côté tu sais médical de la chose. Puis j'étais plus aussi tu sais du côté communication, foodie, vraiment créativité. J'adorais ça. J'adore la photo justement. Puis je me suis découvert une passion pour ça. On pourra en reparler plus tard. Et finalement, dans mes stages à option, j'ai eu un stage avec une communicatrice en nutrition qui s'appelle Isabelle Huot. Et moi, j'ai adoré le stage. J'ai adoré ça. C'était télé, radio. Il n'y avait pas de podcast à l'époque. Mais tu vois comment que les temps changent. C'est incroyable, sérieux. Et c'était au début des réseaux sociaux. Et à l'époque, je pense que c'était Twitter qui commençait là. Puis moi, j'avais pas de compte encore. On avait des comptes Facebook, mais c'était des comptes personnels. Tu sais, il y avait pas de marque encore présente sur la plateforme. Donc suite à ça, je me suis dit, hey, il y a une place à prendre du côté numérique en nutrition au Québec, au Canada. Donc je me suis vraiment plongé là-dedans. Et en fait, le hasard a bien fait les choses, c'est que par la suite, Isabelle Huot, elle était docteure en nutrition, donc elle avait fait un doctorat. Puis moi, je voyais là vraiment une belle crédibilité aussi à aller chercher. Mais c'est que se bâtir une carrière aussi en communication, ça se fait pas du jour au lendemain, tu sais, on n'arrive pas, puis oups, on peut vivre de ça. Fait que l'espèce de prolongement de mes études a fait en sorte que je me suis taillé une place en même temps dans le milieu des communications en santé au Québec. Et ça m'a permis justement de poursuivre aux études graduées. Donc, j'ai commencé à la maîtrise. Puis moi, j'ai fait ce qu'on appelle un passage accéléré au doctorat. Donc, j'ai pris mon projet de maîtrise, je me suis assis avec ma directrice de thèse et on l'a juste grossi, là, décuplé en fait pour en faire une thèse de doctorat. Donc ça a été là un bon 7-8 ans là, tu sais, de recherche. Mais tu vois là, Daniel, ça là, ça a été une expérience inoubliable. Ça m'a permis là d'aller en Afrique du Sud, d'aller en France. Je suis allé en Écosse, aux États-Unis. Je sais pas combien de congrès j'ai fait pour aller présenter mes résultats de recherche. Et moi, à l'époque, quand j'ai commencé, j'ai commencé mes études graduées en 2011. Et le sujet de l'heure là, puis je pense que tu sais, ça l'est quand même encore en ce moment en nutrition. C'est vraiment la génétique. Fait que c'est de comprendre en fait comment que nos gènes vont influencer la façon qu'on mange, mais aussi comment que notre façon de manger va influencer l'expression de nos gènes. Fait que ça, c'est deux concepts totalement différents. Fait qu'on appelle ça la nutrigénétique, la nutrigénomique. Et justement, quand on parle là-dedans, ben nous autres, notre sujet, c'était une étude clinique. On a fait une étude clinique sur les oméga-3. Donc, on a invité là, 200, je pense qu'il y avait 208 personnes qui ont fait le protocole de recherche et on leur administrait des fortes doses d'oméga-3. Donc, de mémoire, c'était 5 grammes par jour qu'on leur donnait. Et c'était sur une période là, de 6 semaines. Et là, ce qu'on faisait, en fait, c'est qu'on les génotypait. Donc, on regardait vraiment l'ensemble de leur bagage génétique. Et ce qu'on faisait, c'est que parallèlement à ça, ben on prenait tout ce qui était plus phénotypique. Fait que, mettons, ça veut dire, par exemple, toutes les données, tu sais, comme les taux de cholestérol, le taux de glucose. Puis après ça, on essayait de trouver des corrélations, des causes à effet, des relations, en fait, entre la génétique et les variables, justement, dépendantes qu'on sur lesquelles on s'attardait. Fait que là, ça a été l'élément déclencheur parce que ça, je faisais ça à la maîtrise. Puis après ça, on a simplement grossi, élargi le champ de recherche pour essayer de voir comment que les oméga-3, finalement, affectaient notre santé. Puis autant là, du côté positif que du côté négatif. Et c'est là que la notion de génétique est très, très, très importante parce que des fois, on peut nous autres, on appelait ça la réponse, tu sais. Fait que dans le fond, on peut être un répondeur ou on peut être un non-répondeur à un traitement. Puis c'est ça qui fait que, mettons, par exemple, là, ce qu'on a vu comme premier résultat super intéressant, c'est qu'il y avait 70% de notre population, de notre échantillon, en fait, qui répondait bien à la supplémentation en oméga-3. Ça veut dire que ça allait dans le sens de la santé. Là, ça veut dire que nous autres, notre prémisse, notre hypothèse, c'était les oméga-3, ça fait baisser les triglycérides sanguins. Ben, c'était vrai chez 70% des gens. Mais là, ce qui nous a surpris, c'est que c'était pas vrai chez 30% des gens. Donc là, à ce moment-là, puis moi, en plus, là, c'était vraiment drôle parce que j'ai été cobaye dans cette étude-là. Puis moi, je le sais parce que je savais mon OMAP là, qu'on appelait, fait mon numéro. Puis moi, j'étais un non-répondeur au traitement. Donc, pour moi, prendre les oméga-3, ça l'augmentait mes triglycérides. Mais tu sais, là, quand on augmente les triglycérides sanguins, c'est très mauvais pour les maladies cardiovasculaires, c'est mauvais pour le diabète, fait que ça nous met plus à risque. Fait que pourquoi chez certaines personnes, en fait, c'est bon, puis chez d'autres personnes, les oméga-3, c'est moins bon? C'est exactement notre question de recherche. Fait que là, comme on avait les non-répondeurs d'un côté et les répondeurs d'un côté, on pouvait comparer les deux groupes, puis on pouvait comparer un peu leur profil génétique. Et là, on pouvait voir les différences. Fait que si on voyait que sur tel gène, il y a une plus grande fréquence, par exemple, allélique, ça c'est les... ou les porteurs, en tout cas, il y a plus de monde qui porte tel allèle dans tel groupe, ben là, on va aller s'intéresser vraiment à cette mutation-là qui est présente sur un gène. Puis là, ben là, après ça, s'en suit les analyses, tu sais, scientifiques, la publication de papiers, de résultats, de recherche, puis après ça, ben on va les présenter dans les congrès. Puis c'est super le fun. Puis à la toute fin, ben on rassemble tout ce qu'on a fait pour écrire la thèse. Puis moi, comment que ma directrice le voyait, c'était vraiment comme tu racontes une histoire. Fait que depuis le jour 1, on commençait l'écriture comme de la thèse quasiment, là, parce que c'est une thèse par article, donc on incluait les papiers. Puis après ça, ben, on fait une revue de littérature, puis je racontais carrément là, l'histoire un peu des oméga-3. Fait que ça a été vraiment un bon milieu pour, je te dirais, pour la rigueur, tu sais, pour apprendre. Tu sais, je te dirais là, qu'aujourd'hui, j'aurais pas le même sens de l'efficacité ou de la rigueur si j'avais pas passé par les études graduées. Ça m'a transformé quand même. Là.
C'est très intéressant. Mais en fait, ça m'amène tout de suite une question. Là. Très souvent, on fait des recommandations d'un point de vue nutritionnel. Il y a le Guide alimentaire canadien, etc. Mais comment on fait pour savoir si ces recommandations-là sont bonnes pour nous? Parce que là, ce que je comprends, c'est qu'il y a certainement des gens qui répondraient mieux à tel type de régime ou d'alimentation, puis il y a d'autres gens qui vont répondre mieux à ce type d'autres types d'alimentation. Est-ce que ça veut dire qu'il faut prendre nos triglycérides régulièrement, notre glycémie? Comment on fait pour évaluer l'impact de notre nutrition sur nous?
Ah, oh, mon Dieu! Ça, là... C'est ça. Tu sais, c'est ça l'enjeu.
Il n'y a pas de solution?
Oui, il y en a à long terme, OK, des solutions, mais on n'est pas rendu là encore. Puis c'est que il y a une. Puis c'est ça que les gens ont de la misère à faire, c'est la distinction entre la, mettons, la nutrition personnalisée, tu sais, pour nous, puis la nutrition à l'échelle populationnelle. Tu sais, puis ça varie là, même d'un pays à l'autre, là, selon les ethnies. On n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes on n'a pas les mêmes mutations qui sont présentes dans nos gènes. Fait que ça l'impacte la façon qu'on va, par exemple, métaboliser la caféine, qu'on va métaboliser le lactose. Fait que tu sais, il y a certaines.
L'alcool,
exactement. Il y a certaines personnes qui vont avoir super du mal à métaboliser l'alcool, justement, ou la caféine, alors que d'autres, ils peuvent dormir après avoir bu un café, un Red Bull, tu sais. Fait que ça leur apporte vraiment de la génétique. Puis c'est dur, à l'échelle populationnelle, de faire une recommandation parce que on va y aller avec les moyennes, tu sais. Mais dans les moyennes, tu le sais, ça peut être autant positif que négatif. Puis là, la moyenne donne le résultat X, tu sais. Fait que, justement, comme nous, quand on disait que dans mon doctorat, que les oméga-3 permettent de baisser les triglycérides, c'est parce que notre groupe de répondeurs, il est de 70%. Donc, il vient vraiment affecter la moyenne du côté positif. Puis c'est la même chose. Mais si là, nos deux groupes avaient été de 50% chacun à peu près, puis que les baisses auraient été similaires aux hausses, on aurait eu zéro de moyenne. Fait que là, la recommandation aurait été nul, aurait été que les oméga-3 n'ont pas d'effet sur les triglycérides sanguins, alors que c'est totalement faux, parce que chez, mettons, si on prenait les extrêmes, là, tu sais, normalement, on les enlève ou on les regarde trop, mais moi, ça nous donnait quand même une bonne indication, parce que, mettons, que tu regardes un extrême, là, tu regardes dans l'extrême positif, mais la personne, elle a peut-être augmenté 200% ses triglycérides, puis dans les négatifs, la personne a peut-être baissé de 59% ses triglycérides, tu sais. Fait que là, tu vois que finalement, ça joue, c'est vraiment le sens, en fait, de la réponse est différent pour chacune des personnes, mais que à l'échelle de la population, c'est la moyenne. Fait que ça, là, ça m'a tout le temps trotté dans la tête. Puis c'est pour ça que depuis quelques années, il y a des compagnies qui lancent des tests de nutrigénétique qu'on peut justement faire. Puis tu sais, en 2011-2012, c'était comme l'apparition des premiers. Ça coûtait là une fortune, tu sais, c'était là 400-500$ pour passer un test de nutrigénétique. Puis il y avait presque pas de mutation qui était incluse. Fait que tu sais ce que ça faisait, c'est que ça te donnait une indication. Moi, je trouvais que ça permettait d'assouvir un peu sa curiosité, mais c'était pas des recommandations encore béton là, parce que des recommandations béton individuelles là, c'est basé sur la génétique, c'est encore, on n'est pas là là, tu sais, parce que nos comportements nos habitudes alimentaires vont avoir un plus gros impact encore que la génétique, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, comme mettons qu'on prend le sujet de l'obésité ou du poids, ben oui, il y a des gènes qui nous mettent à risque, mettons, d'avoir un surpoids ou d'accumuler plus facilement les graisses, de métaboliser différemment les lipides, de stocker, tu sais, il y a plein de gènes qui sont associés à une prise de poids ou à l'obésité. Sauf que, est-ce que ça permet de contrecarrer tes habitudes, tes mauvaises habitudes alimentaires? Non, tu sais, ça explique une moins grande variance que les habitudes. Fait que si tu as déjà à la base des mauvaises habitudes, ça l'aidera pas. Fait que tu sais, la nutrition, c'est tellement plus complexe qu'une seule recommandation qu'il faut une relation un peu avec un professionnel pour voir comment bien s'alimenter. Puis aussi, ce que j'ai remarqué avec les années, c'est vraiment qu'on ne part pas du même point de départ. Puis les recommandations populationnelles, ils sont pour qu'on soit un peu mieux et outillé, en fait, pour notre alimentation, mais ils ne savent pas d'où la personne part. Aussi, la personne est plus éduquée ou elle s'intéresse plus à la nutrition, fait qu'elle, elle en connaît déjà plus, tu sais. Fait que c'est ça qui est complexe, parce qu'il y a des personnes qui partent de loin, puis il y a des personnes qui sont déjà très bonnes, puis qu'il suffit juste de, optimiser un petit quelque chose ou faire un léger changement qui va finalement avoir des répercussions. Fait qu'on est là un peu en tant que professionnel pour aider à optimiser la nutrition. Mais ça, du one-on-one, ça se fait vraiment, tu sais, comme ça, du counseling nutritionnel, c'est avec un professionnel, plus qu'avec des messages de santé publique, là.
Très, très intéressant. En fait, ça me fait penser au domaine de l'entraînement. Dans l'entraînement, il y a un dicton. Peut-être vous le dites aussi en nutrition, je ne sais pas. Mais nous, on dit chaque personne que tu entraînes ou que tu coaches, c'est une expérience avec un seul sujet. Fait que dans le fond, c'est un peu, ça revient à la même chose. Puis on pourrait dire que c'est la même chose pour le VO2 max. C'est des gens que tu vas entraîner avec un protocole d'entraînement par intervalle. En fonction de leur génétique, ils vont répondre différemment. Il y a des gens qui vont, la plupart vont s'améliorer, mais il y en a quand même qui vont régresser. Puis les autres qui vont plus s'améliorer s'ils font de l'entraînement en endurance fondamentale, par exemple. Fait que ça me fait vraiment penser à ce domaine-là. Puis c'est normal, c'est de l'humain. Il y a une grande variance. Moi, c'est ça que je remarque. Il y a une grande variance dans comment les gens répondent à différentes choses. Puis dans le domaine de la nutrition, de l'activité physique, ça semble se ressembler de ce qu'on comprend.
Ben oui,
c'est vraiment intéressant.
Puis même dans les congrès, là, tu sais, souvent, nutrition, activité physique, c'est ensemble. Tu sais, on voyait tout ça. Puis tu sais, ce que, mettons, si on veut mettre un mot sur ce phénomène-là, on appelle ça la variabilité inter-individuelle. Fait qu'après ça, nous autres, on regardait vraiment ça. Puis, tu sais, c'est la même affaire là, pour n'importe quel nutriment. Tu sais, je pourrais te parler justement de caféine. Ben là, il y a des tolérances individuelles qui sont vraiment variables selon les individus. Fait que, tu sais, ça, c'est super le fun. Puis, tu sais, des fois, là, par exemple, tu sais, comme exemple, si... On n'a pas toujours besoin de la génétique pour se le faire confirmer, parce que des fois, on le sait. Tu sais, comme pour la caféine, j'ai pas besoin d'un test génétique à 400$ pour me dire que je la métabolise rapidement ou lentement. Parce que si je bois un café puis je palpite, c'est sûr que je la métabolise lentement. Tu sais, alors que si je suis capable de dormir puis la caféine n'a aucun effet sur moi, ben là, le métabolisme est accéléré. Tu sais, je l'élimine rapidement. C'est ça qu'on veut dire par métabolisme. C'est l'élimination, la vitesse d'élimination. Fait que c'est un peu la même affaire. Fait que tu sais, pour mes triglycérides, ben j'aurais pas eu besoin vraiment de mapper mon code génétique pour savoir que je répondais pas, parce que si je les prenais au temps zéro puis je les prenais 6 semaines plus tard, juste ma différence de niveau de triglycérides m'aurait permis de voir que justement, ben oups, ça l'a régressé. Puis mais là, par contre, c'est que est-ce que dans un protocole de recherche, c'est qu'on était stable du côté alimentaire. Tu sais, dans un contexte de vraie vie, des fois, il y a des sorties au restaurant, il y a l'alcool. Tu sais, il y a plein de facteurs qui auraient pu faire varier mes triglycérides. Tu sais, fait qu'il faut faire attention. Puis en nutrition, c'est ça. Tu sais, parce que la recherche, tu sais, on n'est pas nourri là comme des rats, tu sais, de laboratoire là, puis on pèse pas nécessairement les grammes, tu sais, fait à ce moment-là, c'est plus dur, tu sais, les résultats sont variables. C'est pour ça que les gens ont tellement de misère aussi, parce que à croire ce qui sort, parce que d'un côté, oui, c'est bon pendant un an, puis après ça, une étude vient invalider un autre résultat, mais c'est pas le même protocole de recherche, c'est pas sur le même échantillon, c'est pas sur la même population. Donc il faut faire vraiment attention. Puis aussi, c'est que la science, elle évolue là dans le temps, tu sais, fait que à ce moment-là, ça se raffine. Il y a des trucs qu'on n'aurait pas pu faire dans les années 80, fait que c'est normal que maintenant on puisse invalider certains résultats qui avaient été précédemment publiés. Donc c'est tout qu'un monde, mais c'est super stimulant. Mais je comprends que il peut avoir une confusion de la part du public là.
Ben, tu m'ouvres la porte. Tu m'ouvres la porte. Moi, je trouve que la nutrition, toutes les études qui viennent du domaine de la nutrition sont souvent dures à analyser parce que sont dures à contrôler. Soit, mettons, puis là, je me mets en place des chercheurs, puis là, tu me corrigeras si je me trompe, j'ai jamais fait de recherche, là, mais j'essaye de penser à comment tu peux faire ça. Mais c'est soit, mettons, tu fournis une alimentation hyper contrôlée, tu fournis les repas aux gens. Mais ça coûte super cher. Tu peux pas faire ça sur une grosse cohorte pendant longtemps. C'est un défi logistique puis financier important.
Ouais.
Ou tu les laisses s'alimenter comme ils veulent, puis tu leur donnes des guidelines, mais là, tu contrôles vraiment pas tant que ça l'alimentation. Ouais. Fait que t'es comme pris. Il y a pas de solution parfaite, là. Faire une bonne étude de qualité sur le long terme, c'est extrêmement difficile.
Ouais, c'est ça, c'est tellement dur. Fait que c'est pour ça, en fait, que, mettons, il y a différents types d'études. Il y a des études qui vont être longitudinales, il va y avoir des études observationnelles. Puis, ces études-là vont nous permettre, des fois, de voir une tendance. Tu sais, juste, OK, on a remarqué ça, quand les personnes, mettons, se nourrissent de telle façon, on peut faire une corrélation, mais on peut pas s'avancer. C'est après que les études cliniques vont venir finalement consolider un peu les résultats des études observationnelles. Mais hey, ça se fait sur des années. Puis des fois, justement, là, il y a une étude observationnelle qui va sortir, puis là, elle va être d'intérêt, puis elle va être reprise dans les médias parce que justement, les résultats sont potentiellement intéressants. Mais entre le fait que ça a été démontré puis que, mettons, c'est d'intérêt, tu sais, il y a deux mondes, là, tu sais, fait que c'est ça. Tu sais, on est un peu à la merci de l'interprétation par les médias, tu sais, fait que, qui veulent être aussi sensationnalistes, là, en mettant des gros titres. Puis, tu sais, moi, ça m'est arrivé souvent, là, je te dirais, Daniel, tu sais, d'expliquer les trucs, mais après ça, avec quelqu'un qui n'a pas nécessairement un bagage, tu sais, très scientifique, comme peut-être un journaliste, mais c'est dur de laisser aller ça, puis de dire, hey, je réviserai pas ton texte, puis mettons, tu vas l'écrire de même, puis tu vas le publier, puis il va peut-être avoir une erreur, tu sais. Fait que moi, je trouve ça bizarre parce que, tu sais, ça m'est déjà arrivé d'être mal cité par des journalistes, alors que j'ai été interviewé comme expert en nutrition, puis c'était pas ce que je voulais dire. Puis c'est compliqué parce que avec notre ordre professionnel, on peut pas bullshitter, on peut pas dire quelque chose qui va être mal repris. Puis un coup que c'est imprimé, c'est difficile, tu sais, on peut difficilement se rétracter. C'est pas comme, par exemple, sur mon blog où je peux effacer une phrase, corriger le tir, ou sur mes réseaux sociaux dire « Hey, je me suis trompé, voici, tu sais. » Fait que c'est ça qui est plus dur un peu en tant que professionnel.
Clairement. Là, parlant de sensationnalisme, on va en faire un petit peu. là, on est en 2020. Ouais. Il y a une pandémie en ce moment. Là, on se dirige vers le temps des fêtes. Est-ce que toi, mettons, dans ta pratique, puis dans les gens que tu perçois dans ton entourage, est-ce que tu perçois une hausse des troubles alimentaires dû au stress, dû au confinement, depuis le début de la pandémie?
Bonne question. Moi, en fait, là, ce que je pourrais pas faire un lien direct, mettons, avec les troubles alimentaires, je peux te dire qu'il y a de la prise de poids, par contre. T'sais. Puis la prise de poids, c'est pas nécessairement parce que les gens aussi là, mangent plus, c'est aussi parce qu'ils s'entraînent moins. T'sais. On est moins actif, on est confiné, on sort moins, donc c'est sûr que nos activités du quotidien en prennent un coup. Puis c'est sûr que aussi si on est dans un mood un petit peu plus triste, t'sais, plus dépressif, ben ça peut être lié aussi à des changements au niveau de nos habitudes alimentaires. Fait que ça peut affecter, par exemple, nos habitudes. Donc, on peut prendre peut-être plus de fast-food, d'aliments comfort food, le réconfortant. Donc, des biscuits, je sais pas, des chips, là, ça dépend, c'est variable si vous aimez plus le sucré ou le salé, tu sais. Mais oui, ça peut avoir un impact. Mais comme je te dirais, moi, c'est pas nécessairement, je trouve que les troubles alimentaires ont augmenté plus que l'insécurité alimentaire. Puis justement, les personnes, j'ai vu des statistiques là, très récentes sur le sujet, là, c'était, on parlait, là, je pense, de 14,2% justement, une personne sur sept au Canada qui était en situation d'insécurité alimentaire. Puis des études qui ont été faites là, pendant justement la pandémie montraient là qu'il y avait 19% des familles qui en vivaient. Puis tu sais, l'insécurité alimentaire, quand ça l'affecte notre portefeuille, ben ça l'affecte notre pouvoir d'achat. Donc la première dépense on peut faire des économies facilement, ben c'est à l'épicerie, tu sais, c'est de se tourner vers des trucs qui sont moins chers, mais des fois qui sont un petit peu de plus faible qualité nutritionnelle. Fait qu'à ce moment-là, c'est ça qui a une répercussion un peu plate, tu sais, parce qu'on peut pas se permettre toujours d'acheter ce qu'on achetait, tu sais, quand on travaillait ou quand notre salaire rentrait. Tu sais, il y a des personnes là que mettons leur salaire complet a passé par exemple à la PCU, tu sais, ou dans les familles c'était super compliqué. Fait qu'imagine quand on est une famille de 4, de 5, de 6, de cuisiner quand que le salaire suit pas. C'est plus l'insécurité alimentaire que les troubles alimentaires qui me préoccupent en ce moment-là.
T'as raison, c'est un bon point. D'ailleurs, il y a plusieurs collectes qui sont en cours en ce moment. C'est peut-être un bon temps là, de contribuer à ce niveau-là. Là, d'un autre côté, là, c'est Noël qui s'en vient. Comment... Noël, là, c'est toujours la fête là, de la nourriture, si on veut. Là, cette année, on a peut-être une chance de revirer ça de bord puis de manger en quantité raisonnable, là, on ne sera pas obligé de faire plaisir à notre mère. puis de manger de tout. Là.
Ouais. C'est ça, il n'y aura pas de buffet.
Il n'y aura pas de buffet. Ou en tout cas, ça va être un buffet, mais ça va être un buffet plus petit.
Ouais.
Fait que, comment est-ce qu'on peut réussir à rendre ça intéressant? Est-ce qu'il faut prendre des photos pour les mettre sur notre Instagram? Est-ce qu'il faut cuisiner plus longtemps, se donner plus, puis au lieu de préparer 8 plats différents, on va préparer un seul plat, puis on va mettre plus d'efforts dedans? Parce qu'on a le goût de célébrer, même ouais. si on est, entre guillemets, confiné. Mais on a le goût de célébrer en partenariat avec la nourriture, là, aussi.
Ouais. Ben, moi, dans le fond, j'ai l'impression que, tu sais, les Zooms de Noël ou les rencontres virtuelles, ils doivent pas nécessairement commencer juste au souper, mais même avant, tu sais, pendant la préparation des repas. Si on regarde, par exemple, ce qui est le fun à Noël, c'est peut-être aussi de cuisiner tous ensemble, de se rassembler autour de l'îlot de la cuisine pour cuisiner. Mais on pourrait, par exemple, cette année, choisir une recette, mais la faire tous ensemble, tu sais, fait que chacun mange la même affaire. Puis ça peut être le fun de cuisiner puis ouais. de laisser l'ordinateur ou le iPad allumé à 3 heures quand on fait les pâtés ou les trucs. T'sais, c'est sûr que c'est super différent. Mais sais-tu quoi? C'est vraiment une belle opportunité aussi d'acquérir des nouvelles habiletés culinaires. T'sais. Parce que si c'était toujours, par exemple, la maman qui cuisinait, puis là, maintenant, ben oups, tous les enfants ou t'sais, les gens, votre grand-mère, ben met la main à la pâte, ben je trouve que c'est le fun. Puis il y a moyen de se rassembler aussi puis que ça soit le fun. Puis en même temps, ben justement, cette année, ben on n'est pas dans la culpabilité, on n'est pas dans le contrôle des portions, tu sais, on est chacun chez soi, fait que j'ai l'impression que la relation avec la nourriture puis l'alcool aussi, là, tu sais, va être complètement différente, là, tu sais. Il y a moins de raisons de célébrer puis de l'échapper cette année que normalement, là, tu sais.
C'est tout à fait, on sera pas ballonné pendant 3 jours, là. Non, ah, mais il y a au moins ça de positif. Après ça, ben, je me demandais, là, comme on va peut-être avoir plus de temps, vu qu'il n'y aura pas de visite dans les ouais. familles, ce temps-là qu'on passait soit à se déplacer ouais. ou à rencontrer des nouvelles personnes, on va peut-être vouloir le passer à cuisiner. Mm-hmm. Puis là, je veux que les gens qui écoutent aient un scoop. Là. Ça va être quoi l'aliment qui va manquer à l'épicerie pendant le temps des fêtes? Là, je pense que la levure, tout le monde a fait ses stocks. J'ai checké chez Maxi, il y en avait. Après ça, la farine aussi, ça a l'air correct. C'est quoi la mode, là, si on veut être en avance?
Non, là, tu sais, tu me prends de court, hein? Sérieusement, je saurais même pas quoi te répondre parce que j'ai l'impression que les gens vont quand même faire leurs recettes plus traditionnelles, tu sais, comme justement des pâtés, ben peut-être pas des dindes hein, cette année, parce que tu sais, mettons, quand le monde faisait un rassemblement puis tu cuisinais une dinde, écoute, t'en as pour 15 personnes, tu sais, fait que si c'est plus petit, en tout cas, au pire, il y aura une gestion des restes puis de faire du sous-vide peut-être, c'est peut-être des machines à sous-vide qui vont,
c'est très bon.
qui vont se vendre, mais moi j'aurais tendance à dire que tu sais, les ingrédients de base, tu sais, comme c'est sûr que la farine, c'est quand même une ressource là, qui va être en demande parce que justement, les gens vont vouloir peut-être faire des pâtes maison. Tu sais, quand tu as plus de temps, tu vas vouloir te tourner vers des recettes un petit peu plus élaborées. J'ai l'impression que, en plus, cette année, il y a eu beaucoup de monde j'ai vu là, qui faisait des pâtes à la maison, là, tu sais, avec des raviolis, des spaghettis. C'est vraiment, vraiment le fun. Tu sais.
Avec des fois un résultat moyen. J'ai vu quelques résultats qui étaient un peu ordinaires en termes de pâtes maison. Mais bon, l'effort était là.
Exact.
C'est ça l'important. Par rapport à la dinde, là, j'ai vu aux États-Unis, tu sais, c'était le Thanksgiving.
Ouais.
Puis ça a été la meilleure année de vente pour les dindes de petite taille cette année.
Voilà.
Donc, je pense que si vous voulez réserver votre dinde de petite taille cette année, c'est le moment de le faire. Alors, vous l'aurez entendu sur en action en premier.
Ouais.
Selon toi, est-ce que la pandémie, ça va avoir influencé le monde de l'alimentation? Les gens ont plus cuisiné, surtout au début. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu moins vrai maintenant. Ça va être quoi l'impact à long terme?
Ouais, c'est vraiment une bonne question parce que j'ai l'impression que même des fois, les gens qui ne savaient pas nécessairement cuisiner se sont pas donné la chance aussi de l'apprendre, tu sais. Fait que ça a pu régresser même, tu sais, au niveau, de la qualité de l'alimentation. Ceux qui adoraient cuisiner ont vu là un moyen ou, tu sais, une occasion justement de passer plus de temps avec leur chaudron, les fourneaux, tout ça dans la cuisine. Mais justement, c'est vraiment, il y en a qui sont pas intéressés hein, par la cuisine. Fait que, tu sais, ça dépend. C'est encore une fois, comme on dit, la variabilité inter-individuelle, hein, tu sais. Mais tout ça pour te dire que mon plus gros point va au niveau de la restauration. T'sais, parce que les personnes qui fréquentaient souvent les restaurants, je pense, t'sais, aux hommes d'affaires, ou aux femmes d'affaires aussi, mais t'sais, vraiment au monde des affaires dans le fond, mais aux personnes qui sont sur la route, qui faisaient moins de route en ce moment, puis t'sais, les restaurants, ils l'ont quand même dur, mais en termes de nutrition, ben moi, je le vois que les gens qui fréquentent, que la fréquence des restaurants, ou tu sais, que la visite, dans le fond, dans les restaurants, est, plus la visite est grande, bien, plus ça a une incidence aussi sur ton poids corporel, sur ta santé. Fait que tu sais, il y a eu une adaptation, en fait, avec le monde de la restauration, puis j'ai l'impression que ça a changé un petit peu des affaires, dans le sens que peut-être que les gens qui fréquentaient beaucoup les restaurants se sont aperçus de la fréquence, tu sais, puis qui se sont dit « Hey, peut-être que finalement, j'y allais trop souvent, tu sais. » Donc là, en mangeant plus souvent à la maison ou en se préparant des lunchs, ben ça l'a fait prendre conscience que, oups, OK, je peux quand même améliorer mes habitudes en diminuant ma fréquence de visite dans les restaurants, surtout des restaurants un peu douteux ou, tu sais, moins nutritifs, là, des chaînes de restauration rapide. Donc, tu sais, ça, je trouve que ça a eu son impact, mais ça nuit à l'industrie. Puis là, ça nous arrive justement comme là dans les médias où on est en pleine crise, où ce que les restaurants justement ferment. Puis là, c'est triste à voir parce que, tu sais, justement, c'est des emplois qu'on perd, c'est de la créativité, c'est tellement de ressources en fait, parce que c'est notre patrimoine culinaire aussi qui, par la bande, tu sais, s'effrite. Fait que c'est sûr que c'est le fun d'encourager. Puis justement, nous, à Noël, ce qu'on a fait comme décision, c'est que plutôt que de cuisiner cette année, c'est qu'on a décidé d'encourager notre restaurant préféré qui a offert un service de boîte. Donc, tout simplement, là, nous autres, c'est ça, on a réglé le truc, on va chercher une boîte, puis ça va être ça cette année. Je trouve que c'est une façon de festoyer qui encourage un peu notre économie locale, c'est le fun.
C'est très bon. Fait que tu ouvriras pas le Zoom à 3h pour commencer à cuisiner, là.
Ben, ça va peut-être ouvrir le Zoom pour prendre peut-être l'apéro.
Ben, c'est cool aussi. Ben, justement, toi, t'es auteur, t'as écrit 8 livres. Ouais. Est-ce que vous avez vendu plus de livres sur la nutrition pendant ce confinement-là ou c'est sensiblement pareil?
Ben, moi, j'en ai pas sorti de nouveau cette année. Parce que j'ai changé comme de maison d'édition, puis là, je travaillais sur des nouveaux projets. Donc, je me suis vraiment attardé à d'autres projets entrepreneuriaux que je pourrais te parler tout à l'heure. Mais non, j'ai pas vu de regain là, tu sais, dans les livres. Puis aussi, j'ai des amis dont la sortie de leur livre était planifiée en mars ou en avril, directement là, dans le vraiment le pic de la première vague, et les sorties ont été reportées. Fait que j'ai pas l'impression que l'industrie du livre a été très florissante cette année, surtout que les salons du livre ont été annulés. Donc, ça n'a pas été wow là, comme année. Donc, moi, en même temps, je suis content parce que j'ai deux livres qui vont sortir l'année prochaine. Fait que c'est un meilleur timing, peut-être, là, tu sais.
Probablement, effectivement. Fait que si on résume là, notre prochain temps des fêtes là, avec la nutrition, ben, une bonne suggestion, ce serait d'encourager un commerce local avec une boîte de Noël. Très bonne suggestion. Sinon, ouvrir le Zoom, commencer à préparer le repas ensemble. J'adore l'idée. Honnêtement, mettons, j'ai deux enfants. Déjà, c'est un peu difficile avec préparer de la nourriture. Ouais. Des fois aussi, c'est difficile juste avec le Zoom. Là, les ouais. deux ensemble, peut-être ça va aller mieux. Des fois, deux négatifs, ça devient positif. Je sais pas. On va voir. Fait que très bonne suggestion aussi. Puis après ça, ben, tu sais, un livre de recettes, ça peut être une bonne idée. Ça se donne bien aussi. Un livre sur la nutrition, ça peut être une bonne idée aussi ouais. à Noël. Fait que c'est des bonnes suggestions. Maintenant, je sais que t'es comme un entre... comme un entrepreneur, tu n'es pas juste nutritionniste, tu es aussi entrepreneur. Ah, c'est quoi les projets sur lesquels tu travailles? Là, on a entendu parler des deux livres. Ouais. J'ai vu que tu avais déjà sorti une ligne là, de petits sacs à collation zéro déchet. C'est un mouvement qui t'interpelle. Parle-moi de ça un petit peu.
Oui, tout à fait. Cette ligne de sacs collation-là, ça a été développé il y a déjà 2-3 ans. Ça a... Tu sais, j'en ai vendu là, tellement, là, c'est incroyable. Puis avec le temps, on a changé, on a amélioré le produit. Fait que, tu sais, c'était toujours justement, puis ça a été mes premières incursions un peu dans l'entrepreneuriat, tu sais. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun de bâtir ça de zéro, tu sais, à aller voir les imprimeurs, aller acheter le tissu, là, tu sais, chez des fabricants, les zippers, les fils, tu sais, plein d'affaires, là, qu'on comprend pas, que quand on achète le sac, il y a tellement, tellement de travail derrière. Puis, tu sais, par la bande, je le vivais un peu avec la rédaction des livres parce que je voyais toute l'industrie. Tu sais, quand t'achètes un livre, c'est pas, tu sais, en fait, il y a... T'sais, on pense à l'auteur, mais il y a l'éditeur, le réviseur, le distributeur, l'illustrateur, le commerçant. On encourage toute la chaîne du livre. Puis, ce qui est malheureux, par contre, dans tout ça, c'est que dans la chaîne du livre, c'est l'auteur qui se fait le moins d'argent. T'sais? Fait que ça, c'est...
Mais il est comme en premier. Une fois, il est en premier parce que c'est lui qui écrit en premier.
C'est ça.
L'information s'en va, puis quand l'argent revient, il est en dernier.
Ouais, c'est ça. Fait que là, quand tu penses à ça, tu te dis, ouais, le modèle d'affaires des livres, c'est pas wow pour l'auteur, tu sais. Moi, ça me permet pas de vivre, mais pas du tout. Ce qui me permet de vivre, c'est les conférences que je vais tirer de ces livres-là pour pouvoir finalement les vendre au milieu des affaires, aux corporations, que je peux vendre aussi, mettons, au public, parce que ça peut être dans le cadre de festivals, ça peut être dans le cadre aussi d'événements, ça peut être aussi dans des bibliothèques, parce que quand tu es auteur, justement, là, les bibliothèques t'invitent aussi pour faire la promotion de tes livres. Donc ça, c'est super intéressant, mais le livre en soi, tu sais, quand tu y penses, tu obtiens un faible pourcentage du prix de vente, fait que tu sais, faut que tu en vendes énormément. Puis au Québec, un best-seller, là, c'est entre 3 et 5 000 copies vendues. T'sais. Fait qu'on s'entend que c'est pas exceptionnel. T'sais. Puis ceux qui en vendent 10, 15, 20 000, 100 000 copies se comptent sur les doigts d'une main. Là, t'sais.
Ah ouais.
Fait, ouais, c'est rare. Puis mettons, il y a des auteurs que, tu sais, c'est triste parce que, tu sais, ça te prend quasiment une armure, je te dirais, avant de te lancer. Puis je veux vraiment pas être celui qui brise des rêves aujourd'hui. Mais mettons, c'est que si t'as tes attentes qui sont trop élevées par rapport aux ventes, par rapport aux résultats, par rapport, par exemple, au fait que peut-être que ça va te faire gagner des sous, ben, faut pas que tu le fasses pour ça. Faut vraiment que tu le fasses parce que c'est ta passion, puis parce que justement moi je suis capable d'en retirer ailleurs, tu sais, pour aller alimenter mes conférences, mon site web, tout ça. Mais le livre en soi, ça me permettrait pas de vivre versus le temps que j'investis pour le faire, tu sais.
C'est un peu du cheap labor là, être auteur finalement. Mais c'est comme un investissement d'un autre côté parce que quand tu publies un livre, il y a des relations de presse qui viennent autour de ça, puis ça améliore, ça augmente ton image publique, si on veut, puis ça aide d'autres choses après. Fait que c'est clair que le livre lui-même, c'est comme un peu un investissement en temps qui va rapporter de la visibilité plus tard, puis cette visibilité-là, ben, elle peut être monétisée, si on veut. Là. Tu peux échanger cette visibilité-là contre des sous.
Oui.
Avec des partenariats ou des conférences, etc.
Ben c'est ça, tu as très bien expliqué. Tu le perçois exactement de la même façon que je le perçois. Fait que quand je pars un livre, un projet, je vois ça comme de l'investissement. Fait que ça, c'est super, super le fun. Puis ça me permet aussi de connaître là, une équipe en or, là, parce que tu travailles avec tellement de monde sur le projet, comme je te parlais avant que le podcast commence, avec des photographes, il y a les réviseurs, ton éditrice, là, tu l'appelles souvent, là, fait que c'est génial. Puis après ça, ben, comme tu le disais, ben, de mon côté plus entrepreneurial, mettons, est né un peu le marketing, tu sais, d'influence qu'on appelle, influenceur, tu sais, comme par la bande. Moi, je suis suivi par, tu sais, une grosse communauté. Là, on est à peu près 110 000 personnes sur mes réseaux sociaux. Et qu'à ce moment-là, ben, les compagnies, c'est sûr qu'ils s'intéressent quand même au public puis au travail que moi je fais, tu sais, fait que à ce moment-là, ben j'ai certains partenariats qui m'aident en fait à financer aussi tout le travail que je fais annuellement là, tu sais, parce que en création de contenu, tu sais, j'offre tellement de ressources sur mon site web, mais ces ressources-là sont absolument gratuites, tu sais, pour les gens. Mais si j'avais pas mes partenariats derrière pour venir finalement financer certains de mes projets, j'aurais pas le temps à investir pour développer des ressources gratuites pour les gens, puis les divertir, puis les éduquer aussi, tu sais, puis les aider. Fait que c'est faut trouver la bonne balance entre les deux, tu sais.
C'est intéressant, mais là je vais te poser une question délicate.
Oui.
Mais tu sais, ce type de partenariat-là que tu as avec des entreprises, évidemment, tu n'aurais pas pu l'avoir quand tu étais au doctorat parce que ça aurait pu être considéré comme un conflit d'intérêts. Est-ce que tu te sens, comme nutritionniste, là, tu fais partie d'un ordre, est-ce que tu te sens quand même, je sais pas comment dire, libre de dire tout ce que tu penses malgré ces partenariats qui financent une partie de tes activités?
Oui, totalement. Ouais. Totalement. Écoute, c'est vraiment là, toutes les opinions que j'ai sont 100% transparentes. Et en plus, moi aussi, dans ma politique éditoriale que je me suis fixée, c'est la transparence. Okay. Donc, j'ai été toujours le premier à utiliser les mentions en partenariat avec. Tu peux pas te tromper. Puis moi, ce que je vois, c'est qu'il y en a beaucoup pour être dans le domaine, là, puis voir ce qui passe, parce que tu sais, il y a plein d'affaires que je refuse, que je vois qui sont acceptées par d'autres, tu sais. Fait que là, puis des fois, les influenceurs, ce que vous voyez, ça manque totalement de transparence, parce que je sais que c'est le partenariat qui a été rémunéré, parce que je l'ai refusé, par exemple, mais la personne le fait douter d'une manière douteuse, pas clair, non transparente, c'est pas affiché nulle part. Fait que c'est là que j'ai un problème. Moi, c'est affiché mur à mur, là. Tu peux.
Ouais, j'ai vu hier, je suis allé observer ton Instagram d'ailleurs, qui est magnifique, là. Tantôt, tu me disais que tu avais une passion pour la photo, ben ça paraît, là.
Ouais.
Sur ton Instagram, sur les posts qui sont sponsorisés, ben là, c'est marqué en partenariat avec. Fait que moi, je trouve que c'est une bonne façon. De trouver un juste milieu, parce que tu sais, être pur puis 100% sans partenariat, ben c'est difficile d'un point de vue financier. D'avoir ces apports-là financiers, ben ça te permet de créer plus de contenu, d'aider plus de gens. Puis s'il y a une transparence sur qu'est-ce qui est payé, qu'est-ce qui est pas payé, ben là à ce moment-là, je pense que c'est le juste milieu vers lequel on se dirige là pour les prochaines années. Puis je pense que c'est exact. Comme quelque chose qui est là pour durer. Puis en fait, c'est pas pire qu'une émission là, tu sais, quand tu regardes une émission de télévision dans l'œil du dragon, puis après ça il y a une pub d'auto, mais personne se pose de question là, est-ce qu'il y a un trop grand lien entre dans l'œil du dragon puis une pub d'auto. Fait que là c'est un peu le même type de problème éthique qui se pose. Si ce partenariat-là est bien divulgué, ben il y a pas vraiment d'enjeu lié à ça. Puis il y en a moins.
Exact. Puis moi, j'ai une agente. Puis mettons, à ce moment-là, toutes les transactions, les questions contractuelles passent par l'agence. Puis on discute, on a une vision. Et aussi, c'est qu'on a le pouvoir là, de dire oui puis de dire non. Là. Il y a plein de trucs qu'on refuse. Il y a des contrats qu'on adore. Il y a des contrats que c'est des clients qu'on aime depuis le début. Il y a des contrats aussi complètement de découverte. Parce que tu sais, t'acceptes des trucs, mais il faut se dire aussi que le milieu de l'agroalimentaire, puis de la nutrition, puis de la santé va vite. T'sais. Puis moi, je suis plus aussi axé foodie. T'sais. J'aime beaucoup les tendances en alimentation. Mais c'est sûr que ça, c'est que les compagnies qui créent une nouvelle identité, un nouveau produit, une nouvelle technologie, vont vouloir avoir mon feedback, t'sais, puis vont vouloir que j'en parle. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faut doser la publicité versus, mettons, l'organique. T'sais. Puis si c'est un vrai coup de cœur, je vais t'en parler. Mais combien de produits que je reçois chez moi que je vous parle pas? Tu sais, c'est ça l'affaire. C'est pareil comme si je reviens en science, là. Tu sais, pour revenir à un doctorat, ben, tu sais, quand on publie, on va publier les résultats positifs, mais c'est rare une publication négative. On va pas publier l'absence de résultats. Mais l'absence de résultats est aussi importante que le résultat positif, tu sais.
C'est très bien résumé. Merci. Là, je te laisse le mot de la fin. Veux-tu nous parler un petit peu de tes projets pour 2021? Il y a les deux livres. Est-ce qu'il y a des nouveaux sacs à collation? Qu'est-ce qui s'en vient pour Hubert Cormier?
Oui, ben, en fait, il y a une refonte complète de mon site web. J'aimerais me tourner beaucoup vers aussi les conférences virtuelles, tu sais. Fait que on est en train de regarder ça avec mon équipe pour pouvoir développer une plateforme en ligne pour pouvoir peut-être les vendre ou les diffuser. Je sais pas, on est en train vraiment d'évaluer ces choix-là. J'ai aussi une nouvelle marque qui arrive qui s'appelle Bon pour toi. Et ça faisait longtemps que j'avais le projet, tu sais, mon site web, c'était hubertcormier.com, mes livres, c'est par Hubert Cormier, tu sais, mais je voulais me dissocier. J'avais envie d'avoir une marque où ce que je pourrais explorer d'autres avenues de l'alimentation, d'avoir des sujets moins personnels. Je voulais avoir des collaborateurs. Fait que je voulais avoir une marque un peu portefeuille qu'on appelle. Donc, cette marque-là s'appelle Bon pour toi. On est en train justement de développer le site qui devrait être en ligne là, au début là, de 2021. Sinon, j'ai un livre qui sort le 6 janvier qui est une réédition en fait de mon premier livre. Mon premier livre qui s'appelle « À bas les kilos ». Et c'est drôle parce qu'à l'époque, le titre faisait du sens. Je trouve pas que le titre fait du sens actuellement. Ça dépend comment on le perçoit. Mais je reste quand même persuadé que c'est une ressource qui aide. Parce que c'est pas un livre, même malgré le titre, qui prône la perte de poids, mais c'est vraiment qui prône la santé. Puis c'est un livre à capsules. Et on a passé de 200 petites capsules à 300 capsules. Donc, on l'a super gros bonifié. Et on l'a actualisé. Puis c'est 300 trucs, 300 capsules qui vont te permettre d'avoir un regard nouveau sur ton alimentation. Puis au final, si tu cumules les trucs puis tu les intègres dans ton alimentation, ça va améliorer ton alimentation et par conséquent, ça va peut-être te faire perdre du poids ou maintenir ton poids ou t'aider dans la gestion corporelle, de ton poids corporel. Sinon, un autre livre qui sort le 6 avril, ça va être un livre axé sur un thème qui est vraiment que j'adore, là, c'est l'énergie. Tu sais, comment optimiser tes niveaux d'énergie, comment être énergique toute la journée. Fait que c'est un livre que j'ai détaillé par journée, par moment de la journée, en fait. Fait que comment, mettons, te servir de la matinée puis optimiser ta matinée là pour que tes niveaux d'énergie soient au top. Tu sais, c'est quoi les erreurs que tu fais au dîner? C'est quoi, pourquoi que tu as un coup de barre à 15 heures qui arrive? En soirée, c'est quoi que tu fais de pas correct? Tu sais, fait que le livre, il va vraiment là cibler les moments de la journée puis te permettre d'optimiser tes niveaux d'énergie. Donc ça sort justement au printemps. Puis sinon, il y a un gros projet que je travaille depuis un an et demi actuellement, et c'est le développement d'une application mobile qui s'appelle Switch. Et c'est une application mobile de gestion de poids, gestion d'énergie. C'est vraiment pour t'orienter avec les portions. Parce que ce qui s'est passé, c'est que dans les dernières années, il y a eu on a délesté complètement le concept des portions. Même le guide alimentaire est rendu une assiette, là, tu sais. Fait qu'on sait même plus c'est quoi les quantités. On n'a plus de référent. Il y a des personnes qui ont perdu complètement leur repère. On parle beaucoup d'alimentation intuitive, mais tu sais, qu'est-ce que tu fais si ton intuition est pas bonne? Tu sais, tu comprends? Puis l'alimentation intuitive, ça te donne pas des références. Tu sais, ça te donne pas comment qu'il faut que, ou combien plutôt, combien qu'il faut que tu manges. Puis c'est très dur à dire, puis même moi, tu me demanderais qu'est-ce qu'il faut manger, c'est quoi les portions, c'est dur. Puis, tu sais, justement, les personnes qui n'ont pas la sensibilité, mettons, au niveau de leur l'écoute de la satiété ou de la faim, c'est sûr que c'est difficile. Tu peux outre-manger, tu peux trop manger, tu peux ne pas assez manger. Donc, j'avais envie d'arriver avec une solution pour avoir une alimentation super équilibrée. Donc, l'équilibre alimentaire est au cœur de Switch. Puis après ça, ben ça va être juste on a détaillé ça en un plan alimentaire super facile, un algorithme là, qui utilise de l'intelligence artificielle pour te créer un plan sur mesure. Fait que tu sais, quand on parlait d'entrée de jeu, par exemple, que chaque être humain était différent, ben chaque, dans le fond, tu réponds à un questionnaire puis tu vas avoir un plan qui est personnalisé directement sur ton cellulaire. Puis à ce moment-là, tu vas pouvoir voir c'est quoi une alimentation qui est équilibrée, mais pour toi, tu sais. Puis si ton chum, ta blonde, ton père le fait, ça va être un plan totalement différent, tu sais, en fonction de tes habitudes. Fait que c'est ça que je voulais, c'est quelque chose de super pratique au quotidien puis qui va être, tu sais, transposable là, facilement, concrètement dans la cuisine ou partout en fait où tu vas là.
C'est un gros projet.
Ouais,
c'est énorme.
Ah, c'est énorme. Puis tu sais, on a des contacts en commun, hein, tu le sais, ouais. qui nous coachent ou qui sont mentors. Donc, on le sait que ça représente beaucoup de sous, beaucoup d'investissements, mais pas juste aussi en termes monétaires, mais en termes de temps. C'est incroyable, mettons, comment qu'on s'investit à 100% là-dedans. Puis, tu sais, c'est quand on est derrière, c'est là qu'on se rend compte de tout le travail, tu sais, derrière le développement web, les codes, l'image de marque, hein, les illustrateurs, tout ça. Il y a tellement de travail. Mais ouais. Là, j'ai tellement hâte, ça sort au printemps. Donc, je pourrais t'en reparler.
Ça sera très intéressant d'en entendre parler. Hey, Hubert, merci beaucoup pour ton temps, pour tes bons conseils. Bonne chance dans tes futurs projets entrepreneuriaux. Merci d'avoir été là.
Ben, merci pour l'invitation. À bientôt.
Ça me fait plaisir. Salut.
Bye.